Des fois, je dis ça. Je suis patient, mais pas longtemps. Fait qu'on, on veut être au ciel, mais pas tout de suite. Hein? C'est quand même un peu être. Mais j'ai de la misère à réaliser ça dans ma tête que je pense comme ça, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? On veut être au ciel, mais on aime ça. On aime notre vie sur la terre. Et là, je pourrais vous dire, c'est parce qu'on aime l'Église, parce qu'on aime les frères, tu sais, mais dans le fond, c'est oui, c'est vrai, mais on aime ça, être sur la terre. Et juste pour partager rapidement, avant de plonger dans 2 Corinthiens 3, j'arrive d'une conférence ou d'une rencontre d'éditeurs internationaux. Je vous dis ça pour vous encourager. D'une rencontre d'éditeurs internationaux où il y avait des gens... Écoutez, il y avait des gens du Japon, de la Chine, des croyants, là, des gens qui éditent des livres évangéliques, du Japon, de la Chine, de la Malaisie, des Philippines, des Indes, de l'Arabie, l'Iran, l'Égypte, de la Russie, de la France, de l'Angleterre, de l'Italie, Colombie, Brésil, enfin, partout. Et je peux vous dire que l'Évangile est bien vivant. L'Évangile est bien vivant partout. Et on se rend compte, en discutant avec les autres, qu'on a le même ennemi. On a les mêmes luttes. On a les mêmes difficultés. C'est pas tout à fait vrai, ça, parce que Paul dit dans 2 Corinthiens, justement, il parle de... je ne me rappelle plus quel verset, mais il parle de « Malgré les grandes afflictions, nous ne perdons pas courage. » Et c'est ça qu'on va regarder. Ce n'est pas ce verset-là qu'on va regarder, mais c'est dans 2 Corinthiens. Et étrangement, la parenthèse, c'est que nous, comme êtres humains, vous savez, on a la joie et on a les combats ou les afflictions, et c'est comme relié, hein? Quand les afflictions ou les combats augmentent, la joie diminue. Ça va comme ça. Mais dans 2 Corinthiens, c'est pas ça. 2 Corinthiens, étrangement, ceux qui aiment les études de mots, le mot affliction, combat, tristesse, c'est là qu'on le trouve le plus, dans 2 Corinthiens. Et devinez dans quelle épître on trouve le plus le mot joie, consolation, 2 Corinthiens. La joie et la consolation de Dieu n'est pas reliée avec les difficultés du monde. Même si on a des difficultés, des épreuves dans le monde, notre joie en Dieu continue d'augmenter et de se maintenir, parce que ce n'est pas relié avec les épreuves. Mais je vous dis ça parce que il y a des pays, particulièrement les pays totalitaires, mais d'autres pays aussi, où de faire progresser l'Évangile, c'est pas si facile que ça. Ils sont beaucoup plus éplorés, éprouvés qu'on peut l'être ici, au Québec, au Canada. On est revenu en se disant, « Wow, la vie est belle! » Tu sais, malgré les difficultés qu'on a, là, malgré les problèmes de douane qu'on a avec certains pays, ça va aller. Ça va aller. Merci, Seigneur. Donc, je vous dis ça pour vous encourager que... je ne sais pas les difficultés que vous vivez ici. Vous allez avoir une activité d'évangélisation. Et je vous le dis d'avance, si vous pensez avoir 100%, vous allez être déçus. Vous n'aurez pas 100% de résultats. Mais on a l'espérance que l'Évangile n'est pas une parole en l'air que personne ne va entendre. Il y a, quand Dieu a parlé à Paul pour aller à Corinthe, il dit « Vas-y, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Et c'est peut-être le cas aussi ici à Sainte-Marie, où je ne sais pas où vous allez aller, mais on a l'assurance que l'Évangile va éventuellement trouver la bonne terre. Hein, dans la parabole du semeur, en fait, qui n'a rien à voir avec le semeur, ce n'est pas la parabole du semeur, c'est la parabole des cœurs. Il y en a juste un sur quatre qui est réceptif. Donc, il faut quand même persévérer, même si on ne voit pas les résultats croissent tout de suite comme ça. Ce n'est pas notre job, hein, de faire pousser. Notre job, c'est de semer. Et le Seigneur, vous savez, Dieu est bon. Laissons Dieu être Dieu. Il est bon là-dedans. Essayons pas de faire sa job. C'est le Saint-Esprit qui fait pousser. Nous, on évangélise. Bon, il faudrait bien que je parle de 2 Corinthiens à ce temps, parce que c'est pour ça que je suis venu. Mais on va prier. Notre Dieu et Père, on veut vous remercier encore une fois pour le privilège qu'on a d'ouvrir l'Évangile, d'ouvrir votre parole pour être transformé à l'image de votre Fils bien-aimé. On veut vous demander de bénir ces quelques temps qui sont avec nous et de parler à nos cœurs par le Saint-Esprit, dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Donc, comme il a été annoncé, le sujet qu'on continue dans 2 Corinthiens, c'est au chapitre 3 et les versets 7 à 18. 3, 7 à 18, et c'est le contraste entre deux dispensations. Et avant de lire les textes, quand on inscrit une date sur une lettre ou sur un chèque, consciemment ou inconsciemment, on confirme que, par exemple, aujourd'hui, on est le 19 janvier 2025. On ne l'écrit pas, mais c'est AD, Anno Domini, l'année du Seigneur. Et si vous regardez les livres d'histoire, vous allez voir que Jules César, par exemple, a vécu dans des années BC, before Christ, avant Jésus-Christ. Jésus-Christ divise l'histoire du monde. Sa venue divise l'histoire du monde. C'est pas une invention qui divise l'histoire. C'est pas la découverte d'un continent qui divise l'histoire. C'est pas la venue d'une guerre, mais une personne, Jésus-Christ. Qu'on soit croyant, incroyant, ça change rien. Vous savez, la vérité, elle est immuable. Par exemple, si on dit aujourd'hui que il fait froid, il fait en bas de zéro, même si quelqu'un y croit pas, il fait en bas de zéro pareil. Ça ne change rien. On est en 2025 après Jésus-Christ. Même si la plupart des gens doutent même de la venue de Jésus-Christ, de son existence, même si l'histoire révèle sans aucun doute qu'un homme galiléen a vécu au premier siècle et il s'appelait Jésus. Mais l'histoire est divisée en deux à partir de sa naissance. Tous les événements sont calculés par rapport à la venue de Jésus-Christ. Et sa venue met fin à un ministère, met fin à une dispensation, celle de l'Ancienne Alliance, pour en ouvrir un autre, celle de la grâce. Dans l'Évangile de Jean qu'on a lu ce matin, la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Deux dispensations. Et la Bible l'affirme. Paul défend encore son ministère ici, dans 2 Corinthiens 3, auprès des Corinthiens et des Juifs, en montrant la supériorité de la grâce sur la loi, sur le ministère de Moïse. La supériorité du ministère de l'Esprit ou du Saint-Esprit, parce que quand Paul parle de l'Esprit, il parle du Saint-Esprit, la supériorité sur la loi de Moïse. Et on va lire ces versets-là, et vous allez voir que le mot « gloire » revient 16 fois entre les versets 7 à 18. 16 fois. Et dans le Nouveau Testament, la gloire, ça désigne le rayonnement céleste, la majesté de Dieu, l'aide de Dieu, la présence de Dieu, c'est la gloire. Et on va diviser le texte en deux. D'abord, les versets 7 à 11, le contraste de la gloire de deux ministères. Donc, on va lire 7 à 11, et après ça, on lira de 12 à 18. 7. 2 Corinthiens 3, verset 7. « Or, le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. » Au verset 7, Paul commence en disant, « Or, le ministère de la mort gravé avec des lettres de pierre, le ministère de Moïse, le ministère de la loi est décrit et défini comme le ministère de la mort. Le ministère de la mort. Non pas parce qu'il y a quelque chose de mauvais dans la loi, même qu'on doit se souvenir, moi ça me écoutez, les seules paroles dans toute la Bible qui ont été écrites par Dieu lui-même, c'est la loi. Ça ne veut pas dire que les paroles de la loi ont plus de valeur que l'Évangile de Jean, où on doit les souligner ou les mettre en gros. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire quand même que c'est solennel. Moi, quand j'entends des fois les chrétiens parler de la loi comme « ça ne vaut pas cher, puis on n'est plus là-dessus, puis c'est... » Hey, commande, c'est Dieu qui a écrit ça, là. C'est pas rien, là. Ça ne veut pas dire qu'on est soumis à la loi, mais on est sauvé de la loi, on est racheté de la loi. Mais il n'y a rien de mauvais dans la loi. Et Israël n'avait pas compris le sens de la loi, la portée de la loi. Dans l'Évangile de Jean, verset 5, verset 39, chapitre 5, 39, c'est pas difficile d'y tourner. Mais le Seigneur dit aux Juifs, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. » Romains 17, verset 10, « Ainsi le commandement qui conduit à la vie, la loi, se trouva pour moi conduire à la mort. » La loi était glorieuse. Glorieuse ou au point que le peuple ne pouvait regarder Moïse. Hein? Les gens avaient peur de le regarder. Israël ne pouvait fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire était passagère. Et des fois, on pense que le visage de Moïse... D'abord, ça devait être quand même quelque chose. Hein? Tu vois quelqu'un rentrer dans l'église, c'est en arrière, puis son visage rayonne, là. Tu te poses des questions, tu te dis, « Wow, qu'est-ce qui se passe, là? Il a passé où, lui, là? C'est-tu dangereux? Ça s'attrape-tu? » Mais c'est pas rien, là, que Moïse descend du Sinaï et son visage rayonne. Et on pense souvent qu'il s'est mis un voile parce que ça devait être éclatant, un peu comme il n'y a pas longtemps, il y a eu... un éclipse du soleil, il ne fallait pas regarder, hein, parce que directement, c'est pas bon pour les yeux. Puis on pense que c'était ça un peu que les Israélites ont vécu. Mais le texte dit, « Bien que cette gloire fût passagère. » Passagère. Le mot « passagère », katargeo, ça pourrait être traduit par rendre quelque chose de non fonctionnel, disparaître, inopérant. Peut-être vous vous rappelez les publicités du petit lapin énergisaire. Hein? Mais pas lui, l'autre. L'autre qui boppe, qui à un moment donné, il finit. Passagère, catargéo. Quelque chose qui se termine. Et c'est ce que Paul dit de la loi. Elle est glorieuse, mais elle est passagère. Elle va éventuellement perdre sa gloire. La loi n'avait pas la capacité, la puissance de changer les cœurs. La loi n'avait pas cette puissance-là. Et le récit de l'Exode nous montre que c'est dangereux pour l'être humain, sans foi ni loi, de regarder la gloire de Dieu en face. Voilà cette gloire. Elle était destinée à disparaître. Et c'est sur cette loi que les opposants de l'Évangile s'appuient à ce moment-là. Les Juifs traditionnels s'appuient sur la loi qui faiblit pour s'opposer à l'Évangile. En passant, rien n'a changé. Absolument rien n'a changé. Tout ce qui n'est pas l'Évangile finit par perdre sa saveur et ternir. Tout est vanité. Et je fais l'application suivante. Chaque fois qu'on choisit de pécher, parce qu'on choisit de pécher, hein, ça n'arrive pas là, comme la neige, là. Chaque fois qu'on choisit de pécher, c'est exactement pareil. On n'est jamais satisfait. Jamais. On choisit quelque chose d'autre que Dieu. Et quelqu'un qui refuse l'Évangile, il choisit quelque chose d'autre que Dieu et il va éventuellement être déçu. Au verset 8, « Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? » Le ministère de la loi décline. « Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? » Ce que Paul cherche à faire valoir, c'est que le ministère de Moïse était glorieux, était puissant, mais sa décroissance, combien plus la gloire et la puissance du ministère de l'Évangile qui se dissipe pas, qui ne faiblit pas, qui ne pâlit pas, va être plus glorieux. Le contraste entre les deux ministères est manifeste. Les ordonnances de la loi que les Juifs ne pouvaient pas suivre et qu'on ne peut pas plus suivre aujourd'hui, hein, il n'y a personne qui peut les suivre, sinon la personne du Seigneur Jésus qui les a suivis. Ces ordonnances-là mènent à la mort. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, encore une fois, le ministère de Moïse est appelé le ministère de la condamnation. Le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Il ne dit pas, hein, Paul ne dit pas, il est un peu sur le bord supérieur. Tu sais, ça, hein, c'est comme une game de hockey, ça a fini 3-2 en supplémentaire. Tu sais, ça a été juste, mais non, ça a fini 12-0. Là, tu sais, c'est ça qu'il dit, là. Le ministère de l'Évangile est de beaucoup supérieur. Le ministère de la justice est beaucoup supérieur en gloire à celui de la loi. L'esprit innocente. Christ non seulement intercède pour les condamnés, pour nous, mais sa mort expie effectivement nos péchés. Quand je dis « effectivement », je veux dire de façon efficace. On en a parlé tantôt. On est justifié devant Dieu. La loi exige l'obéissance. L'Esprit nous la donne. La splendeur qui frappe l'Évangile n'est pas celle qui qui frappe les regards. Elle, la splendeur de l'Évangile, c'est la perfection, c'est ce qui perdure pour toujours. La gloire du calvaire éclipse celle du Sinaï en tout point. Et Paul continue en disant, « Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a pas été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. » La version synodale au verset 10 dit, « Et même ce qui fut glorieux dans le premier ministère disparaît devant la gloire bien supérieure du second ministère. » C'est comme le soleil et la lune. Hein? La lune ne brille pas d'elle-même. La lune reflète la lumière du soleil. La lune n'a rien en elle pour briller. Et vous savez, quand on arrive, des fois l'été ou même l'hiver, le jour, les lumières sont allumées et le soleil pénètre dans la pièce et les lumières des fluorescents sont complètement éclipsées. Là. Le soleil vient faire disparaître la lumière des fluorescents. Et c'est ça la différence entre la grâce et la loi. La grâce vient complètement éclipser. Le Christ, d'ailleurs, est appelé le soleil de justice et, dans un sens, il a relégué Moïse dans l'ombre. Sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a pas été à cause de cette gloire qui lui était supérieure. En effet, ce qui était passager a été glorieux. Ce qui est permanent est bien plus glorieux. La loi était passagère, mais la grâce, elle est permanente. On en a parlé ce matin du fait qu'on est sécurisé de façon éternelle. Vous savez que c'est une des doctrines qui est souvent mis en doute dans certains milieux, que est-ce que je suis encore sauvé? Est-ce que je vais perdre mon salut? La perte du salut. Il y a des gens qui pensent qu'on peut perdre notre salut. Vous savez, on ne peut pas acquérir notre salut d'aucune façon et on ne peut pas le perdre d'aucune façon. Personne ne les ravira de ma main. Personne ne les ravira de ma main. On est dans une sécurité éternelle dans les mains de Dieu. Et ça ne dépend pas de nous. Et même si on est désobéissant, Dieu ne dira pas un moment donné, « Je t'en ai, je ne suis plus capable. Toi, je ne te sauve plus. » Non. On est sauvé éternellement. Et ce ministère-là, ne va pas diminuer, ne va pas s'éclipser. Versets 12 à 18. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Les cœurs voilés contrastent avec les cœurs non voilés. Et Paul fait une application ici d'Exode. Évidemment, on a compris que l'idée du voile, ça vient d'Exode. Hein? Ça vient de quand Moïse est descendu du Sinaï, avec la loi. Et Paul fait une application d'Exode 32 à 34. Il dit, « Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. » Ayant donc cette espérance. L'espérance dont Paul parle, ce n'est pas qu'il espère Moi, ce matin, franchement, j'espérais qu'il n'y aurait pas de glace trop sur l'autoroute en m'en venant. C'est un souhait, j'espère. Je ne sais pas. Contrôle pas ça, mais j'espère. L'espérance ici, c'est pas ça, c'est une certitude. L'espérance dans la Bible, c'est d'abord, c'est une personne, hein, dans l'Épître à Timothée. Jésus-Christ, notre espérance, mais c'est une certitude. Et il dit, ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté ou d'une grande audace. Paul était libre, il était audacieux d'annoncer l'Évangile parce qu'il avait cette espérance, il avait cette certitude qu'il avait le bon ministère, qu'il avait le ministère divin. Et Paul nous encourage dans cette confiance en Dieu, dans notre ministère. On est du côté du gagnant. On est du côté de l'Évangile, frères et sœurs. Il faut pas être gêné de l'Évangile. Hein? Qu'est-ce que tu fais, toi, le dimanche matin? Moi, le dimanche matin, je vais à l'église. Comment? Bon, des fois, je vais à l'église. Non, non. Moi, le dimanche matin, je vais à l'église. Je vais adorer Dieu. On n'a pas à être gêné. On peut être audacieux. Audacieux dans le temps, dans le sens de assurance. Et Paul, à cause du ministère de l'Évangile, avait une assurance de parler. Et je vous encourage à ne pas être gêné, à ne pas avoir honte de votre statut de chrétien. C'est une gloire. Nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Pourquoi mettait un voile sur son visage? Comme je vous ai dit tantôt, souvent, des fois, on pense que c'est parce qu'il ne voulait pas blesser ceux qui le regardaient, parce que ça devait briller pas mal. C'est pas ça que Paul dit. Et d'ailleurs, dans Exode 34, vous remarquerez que quand Paul descend de la montagne, son visage rayonnait, et c'est pas la première chose qu'il se fait, se mettre un voile sur le visage. Il rencontre Aaron et les principaux d'Israël, il leur parle, et là, ça brille encore, là. Et après ça, il rencontre tout Israël et il leur parle, il vient de. Et ça brille encore, là. Et après ça, il met un voile. Et pourquoi il met un voile? Bien, Paul l'explique. Il met un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Parce qu'éventuellement, son visage, la lumière, le reflet décroissait. Et c'est pour ça qu'il a mis un voile sur son visage, pour pas que les enfants d'Israël voient la gloire de la loi décroître. C'est ça que Paul dit, c'est exactement ce qu'il nous dit. Moi, j'avais, avant d'étudier et de lire ces versets-là, j'avais pas réalisé ça, mais c'est pour ça. Mais Paul, lui, met pas de voile sur son visage. Ils sont devenus durs d'entendement, car à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'ils disparaissent. Aujourd'hui encore, Paul, quand Paul parle, il dit « Aujourd'hui encore, les Juifs ne peuvent pas voir que l'Alliance était temporaire. » Car ce qui était décroissant, katargeo, encore le même mot qui est là, ce qui était décroissant, jetait un voile sur le cœur des gens. Et pour enlever le voile, c'est l'Évangile. Ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ seul qu'il disparaît. Paul affirme que le voile est rendu inactif, inopérant, seulement en Jésus-Christ, par la prédication de l'Évangile. Et ce qui est remarquable ici, je ne sais pas si vous avez noté ça, mais ça dit, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, au temps de Paul, c'était pas... c'est dans les années 300 que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, en fait, qu'on a reconnu les livres du Nouveau Testament, la liste des livres du Nouveau Testament. Ça, c'est le Nouveau Testament, ça, c'est l'Ancien Testament. Mais déjà, au premier siècle, Paul, il dit, ça, c'est l'Ancien Testament. Paul affirme que les livres de l'Ancien Testament sont la parole de Dieu. Paul identifie les livres historiques, poétiques et prophétiques comme étant la parole de Dieu. Il pose la base de la division de la Bible. Mais il y a dans ce verset-là quand même une application extrêmement importante pour nous que je trouve et que Paul, il sait de quoi il parle. Il dit « Jusqu'à ce jour, le voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. » Il sait de quoi il parle parce qu'à toutes les semaines, Paul, il allait dans les synagogues. À toutes les semaines, il entendait la lecture de la loi. À toutes les semaines, il entendait l'explication comme lui-même l'a fait dans le Nouveau Testament. Et ce qu'il dit, c'est que, écoute, on allait là toutes les semaines, puis on n'a jamais rien compris. On ne retirait pas la vérité de ce qu'il y avait dans la lecture. Et je vous pose la question à vous, ici, personnellement. Est-ce que quand vous retournez chez vous dimanche après dimanche, vous retournez avec quelque chose? Ou si, comme au temps des Juifs, et je ne suis pas en train de dire que vous êtes voilés, là, mais je suis en train de dire qu'eux perdaient le temps dans les synagogues parce qu'ils n'ont pas discerné. Hein? Le voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Quand on retourne chez nous, qu'est-ce que le Seigneur va me dire? Qu'est-ce que j'ai appris ce matin? Qu'est-ce qui va transformer ma vie à l'image de Jésus-Christ? C'est à vous de répondre. Jusqu'à ce jour, quand ils lisent Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. La métaphore se transpose. Le voile était sur le visage et là, il est rendu sur le cœur. Ce qui est voilé. On comprend pourquoi. Il était endurci de cœur. On comprend pourquoi, dans l'effort d'évangélisation, vous n'allez pas scorer 100%. Parce que il y en a qui ont un voile sur leur cœur. Et c'est seulement en Jésus-Christ et par Jésus-Christ que ce voile va s'enlever. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Ce verset nous assure de l'efficacité de l'Évangile. Pas 100%, mais de l'efficacité de l'Évangile. Lorsque le voile est ôté, les cœurs se convertissent au Seigneur. Et c'est lui, on n'arrive pas avec un gros, je ne sais pas comment ils appellent ça, là, faire du vent. Là. Des fois, on voit ça. Comment? Un éventail, oui. On va enlever le voile, ça ne marche pas de même. C'est la prière qui va faire enlever le voile. On prie Dieu pour qu'il enlève le voile de ceux à qui on parle du Seigneur. Et c'est lui seul qui enlève les voiles. Il dit, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Est-ce que Paul fait une parenthèse ici? En passant, là, j'ai une petite vérité théologique à vous dire. Là. Petite parenthèse, le Seigneur, c'est l'Esprit. C'est pas ça, là. Paul continue son explication et Paul dit dans Exode 34, le Seigneur, c'est l'Esprit. C'est le même. C'est le même qui opérait dans Exode 34, qui opère dans 2 Corinthiens. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et il termine en disant, nous tous dont le visage découvert reflète la... Et là, nous tous... Ça veut dire « nous tous ». C'est tout le monde, tous les croyants. Si vous êtes croyant, sauvé par Jésus-Christ, vous faites partie du « nous tous ». Vous devriez vous sentir interpellé. « Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Sans exception, nous tous, transformés, métamorphosés. C'est le même mot que dans l'Évangile, quand le Seigneur son visage est transformé, il est métamorphosé. C'est le même mot qui est là. On est transformé à l'image du Seigneur. Et la transformation dont il est question, ce n'est pas un événement. Pouf! On est transformé comme ça à l'image du Seigneur. C'est sûr, on est sauvé d'un coup. Hein? On est sauvé par la grâce, et cette grâce nous est imputée. Ça veut dire tout de suite, comme un transfert bancaire, tu sais, quand je fais, j'ai rendu dans l'autre compte, c'est fait. En passant, l'Église catholique enseigne que on est sauvé par la grâce, pareil comme nous, mais c'est par infusion au travers des sacrements, tranquillement. Puis on ne sait pas quand il n'a assez puis quand il n'a pas assez. Ce que la Bible enseigne, c'est qu'on est sauvé par la grâce, mais c'est l'imputation, tout de suite. Donc, on est sauvé d'un coup, mais la transformation, la sanctification, elle, ça n'arrive pas d'un coup. Ça, et si le salut est unidirectionnel, c'est-à-dire que c'est Dieu qui sauve, la sanctification, on est participant à la sanctification. C'est pas, on ne peut pas dire, Seigneur, sanctifie-moi. Là, moi en plus, là, tu sais, j'aimerais ça être plus. Puis là, on s'assit et on ne fait rien. Puis, non, il faut participer à ça. Il faut participer. Donc, on est transformé dans la même image de gloire en gloire. Je vous pose la question, est-ce que vous vous sentez transformé de jour en jour, un peu plus proche du Seigneur? Quand je dis un peu plus proche, ça veut dire on lui ressemble un peu plus. Moi, ça m'arrive des fois qu'il y a des gens qui me disent, hey, tu ressembles à ton père. Il y a 92 ans, je ne suis pas sûr que c'est une... En tout cas, ils me disent ça. Puis... J'aime ça, tu sais, je veux dire, j'aime ça ressembler à mon père, je l'aime bien. Mais est-ce qu'on ressemble à notre Père céleste? Est-ce que la vie de Jésus-Christ en nous, parce que c'est ça, hein, la gloire dont il est question, que cette gloire qu'on manifeste, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est pas quelque chose qu'on reflète, la gloire qui arrive dans nos faces, puis ça reflète. C'est la gloire qui vient de l'intérieur. C'est la vie de Jésus-Christ en nous. C'est la vie du Saint-Esprit en nous. Ça doit faire une différence dans nos vies. On est transformé à son image. Et comme on a lu, ce n'est pas réservé à un comité, ce n'est pas réservé aux anciens, ce n'est pas réservé aux diacres ou aux monitrices d'école du dimanche, ce n'est pas réservé à une élite. C'est réservé, oui. C'est marqué, nous tous. C'est réservé à tous les croyants. Si vous êtes un croyant né de nouveau, vous êtes dans ça. Vous êtes appelé à manifester la gloire du Seigneur dans vos vies quotidiennes. Pas à refléter, pas à briller, attendez-vous pas ça, là, tu sais, de... vous mettre à briller. Là. Alexis m'a déjà dit ça, mon petit garçon, il est plus grand, un peu petit, là, mais dans le temps, il prenait son bain, puis il se frottait les oreilles, puis il se frottait les oreilles avec du savon, puis à un moment donné, il dit, ça va être correct, là, tu sais. Ah, il veut qu'il brille, puis il faisait ça comme ça, tu sais. Mais ça ne nous arrivera pas, là. Vous savez qu'on va se mettre à briller, là, à cause de l'Évangile, là, qu'on va faire de la lumière dans le noir, mais on va briller. L'Évangile va briller à travers notre comportement, à travers nos réactions, et pas toujours à travers les joies et les plaisirs qu'on a, que Dieu nous permet dans ce monde, mais souvent à travers les difficultés et les afflictions. On ne va pas réagir de la même façon. Bon, je ne repartirai pas sur un autre message, là, mais soyons transformés à son image. Notre Dieu et Père, encore une fois, on veut vous rendre gloire de ce que on a cette possibilité, on a ce privilège de vive une vie qui vous honore. Non pas parce qu'on est plus fin que les autres ou parce qu'on a reçu plus que les autres, mais simplement parce qu'on a la vie du Saint-Esprit en nous. On veut vous demander de nous aider à avoir l'intelligence de nous appuyer sur le Saint-Esprit dans nos décisions, dans notre comportement, que ce soit ici à l'Église ou à l'extérieur, que partout où on soit, la gloire de l'Évangile puisse rayonner au travers de nous. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Amen.